C'est Robert Ménard qui est notre invité ce midi sur BFM TV. Monsieur Ménard, l'intersyndicale appelle au blocage mardi, c'est la protestation contre la réforme des retraites, le texte est au Sénat, nous y reviendrons. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cet appel au blocage, cet appel à mettre l'économie du pays à genoux, je cite les syndicats?
Je suis sidéré de la formule, honnêtement. On peut ne pas, je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec la retraite, mais l'objectif c'est de mettre l'économie française à genoux. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai pas envie de mettre l'économie française à genoux parce que j'ai pas envie de faire du tort aux Français.
Et vous pensez que les syndicats veulent faire du tort aux Français?
Ah ben là, oui, quand tu dis ça. Enfin, écoutez, on a eu droit à l'Assemblée nationale à des propos de fous furieux.
On va y revenir.
On a eu droit dans les syndicats qui vous disent que c'est une espèce... Qu'est-ce que c'est? Un couloir de la mort. Un couloir de la mort en parlant de la retraite si elle était prolongée. Non, honnêtement, je pense qu'il y a une espèce d'inflation de part et d'autre, parce que du côté du gouvernement, c'est pas que des maladresses, c'est aussi un certain nombre de bêtises qui sont dites. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut dire aux Français? Il faut leur dire, bien sûr, contrairement à ce que dit le ministre, ça va faire des dégâts. Bien sûr qu'elle est dure à supporter cette retraite.
Mais bloquer, c'est le seul moyen, en fait, de négocier. C'est ce que disent les syndicats, puisque chacun est arc-bouté sur
négocier pourquoi? Sur quoi? Il y a un projet alternatif? Si on me disait, il y avait un projet alternatif. Quand j'entends un certain nombre de syndicats ou de partis politiques, en gros, dire, il n'y a rien d'autre, c'est le statu quo. Non, ça ne veut pas être le statu quo. Il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas mentir. Mais de part et d'autre, la retraite, cette réforme des retraites, en tout cas, une réforme des retraites est obligatoire. Est-ce que c'est celle-là? C'est la première question. Est-ce qu'elle va assez loin? C'est la deuxième question. Mais dire aujourd'hui ou laisser entendre qu'on pourrait rester comme ça, c'est mentir aux gens.
Mais
c'est
est-ce mentir. Le blocage comme arme de négociation, comme arme syndicale, vous voyez ça comment? Je poursuis ma question avec un sondage. Les Français sont majoritairement, alors pas immense, de façon immense, mais ils sont majoritairement favorables au blocage.
Bah attendez, quand vous dites aux gens, vous allez devoir travailler plus, puisque tout le monde va devoir travailler plus, expliquez-moi comment, dans un sondage, les gens ils vont vous dire « Ah non, c'est pas une mauvaise chose, je vais travailler plus. »
Non, là, ils sont d'accord pour mettre la France à l'arrêt.
C'est pareil, du coup, comme ils sont contre ça, ils se disent « Si ça peut faire quelque chose, je suis pour. » Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Moi, je veux bien, si on m'expliquait, on va faire quelque chose qui pourrait nous permettre, un, de réduire les déficits, deux, de faire en sorte que demain ou après-demain, attendez, je voyais tout à l'heure sur votre antenne, vous savez, tout un tas de gamins, enfin, pardon, de lycéens ou d'étudiants parler, manifester. Mmh. Enfin, c'est pour eux qu'on veut la faire, la réforme. C'est pour eux qu'il faut faire une réforme. Mmh. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réforme. Mais il faut faire une réforme. Le reste, c'est de la démagogie. Je suis persuadé que les Français le savent, malgré les sondages. Ils savent bien qu'il y a une obligation de faire quelque chose.
On a bien compris que vous étiez contre les blocages, Robert Ménard. Mais est-ce que vous iriez à dire, comme Olivier Véran cette semaine, que ces blocages sont une catastrophe écologique, agricole, sanitaire et voire humaine?
Ah, mais c'est débile, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est une maladresse ou c'est de la provocation?
Mais c'est de l'exagération, ça ne rime à rien, c'est de la caricature de politique. Je veux dire, ça envoie, ils se moquent de la CGT qui a des formules à l'emporte-pièce, où vous savez, les assassins, bourreaux et tout ça, qu'on a entendu à l'Assemblée nationale. Mais ils sont pareils, c'est le revers de la même médaille.
Vous mettez tout le monde dans le même panier?
Non, je ne les mets pas dans le même panier, je dis juste... Peut-être qu'on pourrait arrêter avec des exagérations de ce type-là. Une catastrophe écologique et puis quoi? C'est la Troisième Guerre mondiale, tant qu'il y est. C'est pas sérieux de dire ça et ça aide en rien. Ça n'aide en rien. Moi, ce que j'espère, en même temps, j'espère plus du tout parce que je crois que c'est foutu. Ce que je pensais, c'est qu'on pouvait discuter raisonnablement. Vous savez, je suis d'une génération...
Il n'y a plus de dialogue depuis longtemps entre les syndicats et le gouvernement.
Oui, enfin, attendez, personne n'y met du sien. Enfin, du côté du gouvernement, attendez, Monsieur Macron, il a dit une chose, son contraire, le contraire de son contraire. Depuis 2017, il a dit exactement une chose, exactement l'opposé de cette chose. Donc il y a ça. Regardez, on prend, je sais pas, sur les 1200 euros, vous savez, par mois. Vous vous rappelez encore, on a un tout petit peu de mémoire, les chiffres. Il y a des ministres qui ont quand même dit que ça concernait, on ne savait même pas si c'est brut, net et tout ça, ça concernait 1 800 000 personnes. Maintenant, on est entre 10 000 et 20 000. Enfin, attendez, vous pouvez juste être un peu sérieux. C'est ça qui me tue. Et ce qui me tue dans cette histoire-là, c'est que ça décrédibilise pas seulement les scènes de l'Assemblée nationale, mais ces discours-là et les propos que vous venez de citer, ça décrédibilise tout.
Alors justement, on va revenir sur la façon dont les choses se sont passées, sur le fond justement de ce texte. Avant ça, encore un mot sur les blocages.
Oui. on a appris que les routiers commencent à bloquer dès ce soir, à 22h. Donc là, les choses deviennent extrêmement sérieuses. Est-ce que vous redoutez un schéma classique d'un pays bloqué ?
J'en sais rien. Vous savez, chez moi, à la mairie, j'ai regardé, par exemple, le nombre de grévistes. Là, au début du mois de janvier, il y en avait plus de 16%. Maintenant, la dernière fois, il y en a eu moins de 2%. C'est ça. Moi, je vous donne les chiffres que je connais. Et même les manifestations à Béziers, elles ont été nombreuses. Parce que ça veut dire quelque chose, les manifestations. Ça veut dire qu'il y a une espèce de crainte qui, je pense, relève d'autres choses et pas seulement, en tout cas,
dans votre
de la
ville, il y a eu beaucoup de...
Il y a eu beaucoup, comme on n'en avait jamais vu. Mais maintenant, ça a beaucoup diminué. Peut-être parce que les gens se disaient où elle est l'alternative.
Donc il y a une baisse à Béziers dans ces petites villes.
Enfin... Bien sûr. Enfin, moi je vous parle de chez moi parce que j'ai les chiffres chez moi. Je sais pas ailleurs. Il y a de moins en moins de grévistes et il y a de moins en moins de manifestants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un malaise. Je sous-estime pas ça.
Il faudra voir la mobilisation de mardi.
Ouais,
qu'est-ce que vous pensez de ces mairies comme à Paris ou Montreuil qui ont fermé leurs portes pour faciliter que leurs agents puissent aller manifester et protester contre la réforme?
Je sais pas. Ça m'a pas effleuré l'esprit, honnêtement. Ça m'a pas effleuré l'esprit. Je crois pas que ce soit le boulot d'un maire. Non, honnêtement, c'est les mêmes qui se plaignent que les services publics ne fonctionnent pas assez, qu'il y a toujours des problèmes, et ils en rajoutent une couche. Vous croyez que les gens qui ont besoin d'un passeport, d'une carte d'identité, ils ont envie, déjà c'est compliqué à avoir, aujourd'hui il faut attendre des lustres, et ils ont envie d'arriver à la mairie, que ce soit fermé? Non, je crois pas que ce soit le rôle de la maire.
Alors, si ça baisse un petit peu, en tout cas à Béziers, on sent une montée chez les étudiants, dans la jeunesse. Est-ce que là aussi, vous avez des capteurs et est-ce que vous comprenez leur...
Je suis abasourdi.
Ah bon ?
Pourquoi ?
Ah oui. Ah oui, parce que vous, à 20 ans ou 25 ans, vous pensiez à la retraite 40 ans plus tard. Enfin, je ne sais pas. Moi, je crois que j'ai d'autres préoccupations. Enfin, j'en avais d'autres et tout ça. Il me semble qu'il y a 1000 autres soucis que ça. Alors, peut-être que je suis un vieux schnock qui est d'une autre époque. Je sais pas, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, comment j'allais la réussir, si j'allais être heureux, enfin, 1000 autres choses. Bah alors, 40 ans avant, se préoccuper de ta retraite. Alors,
après, ce que dit l'UNEF notamment, ouais, c'est nous manifestons pour dire non à ce projet, mais aussi pour d'autres choses, pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat chez les étudiants qui n'ont plus de quoi se nourrir pour beaucoup, pour dénoncer l'inaction du gouvernement sur l'écologie.
C'est un groupuscule qui a toujours servi à fournir des militants et des élus à la gauche. Je crois qu'ils fournissent plus personne, mais et dans quelques domaines que ce soit. Honnêtement,
Donc quand on est jeune, on manifeste pas.
Mais oui, bien sûr.
En 68,
moi, j'ai passé ma vie à manifester, mais pas pour la retraite, honnêtement, parce que t'as envie que ça change, parce que le monde est dégueulasse. Moi, je trouve le monde dégueulasse tous les jours. Tous les jours, je suis révolté. Comme maire, parce que je constate les choses. J'ai 1000 raisons de manifester. Il y a 1000 raisons de pas être content. Je vois les gens. Moi, je m'occupe des HLM dans ma ville. On n'a jamais eu, au mois de janvier, autant de gens qui ont eu du mal à payer, vous savez, leur loyer. Autant de gens qui ont eu du mal à payer leur note d'électricité. Il y a 1000 raisons de le faire. Mais honnêtement, la retraite. Mais non, mais c'est des groupuscules de gauchistes qui ont envie de faire parler
de... Vous semblez lassé par le gouvernement, par la rue, vous semblez lassé de tout cela. Vous n'y croyez pas à ce mouvement ?
Non, je crois que ça dit quelque chose de la France. Ça dit chez moi le nombre de manifestants, le sentiment, comment vous dire, d'oubli, de déclassement,
justement,
je parle dans les villes moyennes, de délaissement, d'abandon. Je crois que ça dit tout ça, mais ça dit pas que les retraites. Vous pouvez pas honnêtement, sérieusement aujourd'hui dire, comme le dit le Front National ou la France Insoumise, une espèce de programme commun, nouvelle manière, qu'il faut rien bouger, honnêtement.
Vous les appelez Front National?
Comment, le Rassemblement National?
Vous disiez lapsus, c'est volontaire?
Ouais, c'est un lapsus, ça va, on va pas en faire une histoire.
Vous disiez qu'il y avait un sentiment d'abandon. Est-ce que face à ces menaces de blocage, le chef de l'État, Emmanuel Macron, doit s'exprimer longuement et faire lui-même de la pédagogie en profondeur sur sa réforme?
Il fallait surtout pas dire une chose et son contraire. En 2017, c'était pas nécessaire. En 2019, il y pensait pas. Et maintenant, il veut le faire. Enfin, attendez, c'est pas sérieux. Parce que la natalité, elle a beaucoup changé entre 2017 et maintenant. Parce que les chiffres macroéconomiques ont beaucoup changé. Vous savez bien que non. Ça veut dire que c'est de l'opportunisme, c'est-à-dire on le dit en fonction des contextes politiques. C'est ça, encore une fois, j'insiste, qui décrédibilise la parole des
politiques. Alors, est-ce que la prise de position d'Olivier Dussopt en Une de Parisien, elle crédibilise la parole politique, pour reprendre votre expression, on va la montrer à nos téléspectateurs, mais le ministre du Travail affirme que cette réforme, c'est une réforme de gauche. Lui qui vient du Parti Socialiste.
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit de gauche ou de droite?
Je sais pas, c'est lui qui le dit.
Non, mais attendez, ça a l'air d'être important. Mais là, c'est une histoire personnelle.
C'est la com' 48 heures avant
la manif. Mais non, mais il vient du PS, donc il espère, je sais pas quoi, aller dans le sens du poil de ses ex-copains. Mais je m'en fous, moi, qu'elle soit de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Elle est utile ou pas? Il faut la faire ou pas? C'est quand même un drôle de façon de voir la politique. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui lui a pris, là? Je veux dire, on fait de, alors qu'on dit que c'est un, alors que c'est essentiel, la durée du travail, ce qu'on fait du travail, les valeurs, travail, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette envie qu'on a tous d'être à la retraite? Ça peut, dit peut-être quelque chose de notre rapport au travail. Et ce ministre, que je connais ni Dave ni d'Adam plus que ça, donc j'ai pas de passif à avec lui, qui vous explique que c'est de gauche. Mais on s'en bat l'œil que ce soit de gauche. On veut juste savoir pourquoi tu la défends et si elle est utile.
Alors justement, vous vous dites en gros, elle n'est pas juste, mais elle est nécessaire.
Oui.
Expliquez à nos téléspectateurs pourquoi. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas juste, mais elle est nécessaire.
Quand il dit il n'y aura pas de perdant, ouais, M. Dussopt,
ce sont ces
c'est
mots.
Pas vrai. Tout le monde va être perdant, parce que dans l'absolu, les gens n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus. Donc on va être tous perdants. Qu'ils disent les choses. Il y a des perdants, ça va être plus dur, ça va être plus compliqué. On essaye qu'elle soit le moins dure possible pour ceux qui ont les carrières les plus compliquées, qui ont travaillé les plus jeunes. Je ne parle pas de ce grand moment de pédagogie où on ne savait plus. Or, quand tu pars à 16 ans, 18 ans, 20 ans, tu travailles jusqu'à 64 ans, quand tu es à 15 ans, 17 ans, jusqu'à 63 ans, enfin, à part d'avoir fait, je sais pas, l'ENA, tu comprends peu, plus personne ne comprend rien. On dit ça, on dit la vérité, on se cache pas. Oui, ça va être plus compliqué. Oui, vous allez
ça,
devoir
dit,
plus travailler.
Ménard, comment? Ils l'ont dit, ça, le gouvernement, ça va être dur.
Ah non, quand il vous dit, il y aura pas de perdant, il ment, il y en a, tout le monde va être perdant. Va être perdant. Alors. Mais il dit, mais moi j'ajoute, mais comment on peut faire autrement? Comment on peut faire pour que les gamins qui d'un coup le matin se réveillent pour leur retraite se disent que peut-être dans 40 ans, si on bougeait pas, eux, ils auront des problèmes pour toucher leur retraite. Mais même sur les équilibres, enfin les équilibres des comptes, vous vous rappelez, on faisait tout ça parce qu'on allait perdre quoi, un peu plus de, je sais plus, 13, 15, 17 milliards.
Plus de 10 milliards par an.
Ouais, 10 milliards par an. Avec les concessions qu'ils ont fait, ça va nous coûter plus cher que les 10 milliards
ça
en question.
Ça va pas coûter plus cher. Mais...
Ah oui, là, attendez, ils annoncent. Non, ils annoncent.
Il y a un déficit de 600 millions d'euros
voilà,
à ce stade.
C'est-à-dire que le seul argument qu'ils avaient, qui était de dire, en gros, il faut que les comptes soient à peu près bien. Il faut dire qu'après avoir donné tellement d'argent à tout le monde, c'est compliqué à entendre. Même sur ça, ils ne tiennent pas le
coup. M. Ménard, pardonnez-moi juste avant de donner la parole. Vous dites après avoir donné tellement d'argent à tout le monde. Mais vous faites allusion au quoi qu'il en coûte.
Ouais.
Mais le quoi qu'il en coûte, donc 600 milliards, il a permis de sauver des entreprises aussi, non?
Ah, mais moi je suis pour.
Ah oui, non, parce que vous le disiez
Je dis que quand tu en as donné autant, et ils ont eu raison. Attendez, moi je suis pas macroniste, mais là-dessus, dans ma ville, dans ma région, s'il n'y avait pas eu l'argent, le nombre d'entreprises qui auraient plié et de types qui auraient été, et de femmes qui auraient été au chômage, il faut juste lui rendre ce qu'il a. Moi je suis capable de dire en même temps. Je me moque, évidemment. À la fois que sur les retraites, il a dit n'importe quoi à un certain moment, et en même temps, là-dessus, vous avez raison. Mais c'est compliqué aujourd'hui d'expliquer, alors qu'on a donné tant d'argent, qu'au fond, 10 milliards, c'est important. Mais en même temps, il faut le faire.
Et si vous pouvez nous éclairer un peu, donc, sur sa réforme des retraites, là, on la vote, enfin, si vous étiez à l'Assemblée, ou en tout cas, il faut la voter, il ne faut pas la voter, c'est 64, c'est 65, c'est 66.
Moi, je la voterai la mort dans l'âme.
Donc, vous êtes quand même favorable à cette réforme.
Non, je dis qu'il faut faire ça au minimum. Mais c'est un minimum. Parce que, pardon, je vous donne rendez-vous dans 4-5 ans autour de cette table et on reparlera d'une nouvelle retraite. Et d'une nouvelle réforme de la retraite, parce qu'on n'aura rien réglé.
Vous êtes pour quel âge, finalement, de départ à la retraite? 67 ans, comme Édouard Philippe en son temps ou...
Moi, 65 ans, ça ne me choquait pas. Je vous rappelle. Attendez, mais quand même, là aussi, les Républicains, là, M. Pradier, qui d'un coup trouve qu'il y a problème, et qu'il y a un an, il faisait la campagne de qui? Et qu'est-ce qu'elle disait? Madame Pécresse. Elle était à 60... Enfin, attendez, mais il ne faut pas se moquer du monde. Mais aujourd'hui, comme il est dans un département de gauche, il doit se dire, je sauve ma peau, c'est ça.
Donc, faut voter cette retraite.
Moi, je dis que sur cette retraite, on peut pas en faire l'économie, mais elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas pris en compte une forme de capitalisation pour payer les retraites, on n'aura pas réglé le problème.
Donc, et en pour plus, pour la retraite à 65 ans et avec une partie de
capitalisation. Et puis, attendez, on nous a pendant tout un tas de gens, y compris à droite, nous disaient, ah oui, mais attends, les régimes spéciaux. Enfin, il y a 17 régimes spéciaux. Le Sénat est fier d'avoir travaillé sur 5 et les 12 autres. Qu'est-ce qu'ils en font? Et les fonctionnaires, ils se posent la question. Mais ça, t'as pas un homme politique qui va en parler. Moi, dans ma ville, entre la ville, je suis président de l'agglo et tout ça, ça fait 2500 fonctionnaires. Allez dire, mais moi, je le dis aux fonctionnaires. Je leur dis, est-ce que c'est légitime qu'on prenne vos 6 derniers mois comme base de calcul de votre retraite, alors que si vous êtes dans le privé, vous faites le même boulot, c'est 25 ans.
Mais est-ce que le système par capitalisation, il n'est pas injuste par nature, puisque le mot de justice sociale, on entend partout là depuis que cette réforme est sur le métier. C'est pas injuste, capitalisation, parce qu'en gros, si on a les moyens, on capitalise, on a une bonne retraite. Si on n'a pas les moyens, ben on a une retraite de misère.
C'est pour ça qu'il faut une partie de capitalisation. Mais pourquoi on est toujours plus malin que tout le monde, les Français? Pourquoi on regarde pas?
C'est bien ça, non?
Non, je suis pas sûr. Je pense que de temps en temps, on peut regarder à côté. Il y a des types qui ont de bonnes idées. Vous savez, en Europe, il y a des gens qui sont pas totalement abrutis, pas plus idiots que nous et qui peuvent donner des idées. La capitalisation, ça marche dans un certain nombre de pays européens et ça marche bien quand c'est qu'une partie de la retraite. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut faire une retraite et prolonger l'âge d'entrée à la retraite, parce qu'on peut pas faire d'économie de ça, mais il faut aussi de la capitalisation. Sinon, je vous le dis, dans 5 ans, on recommencera.
Le système est aujourd'hui injuste, et notamment à l'égard des femmes qui ont souvent des carrières hachées. Là, dans le cadre du débat au Sénat, les Républicains proposent une surcote pour les mères de famille, mais à condition qu'elles aient une carrière pleine. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une carrière pleine?
Et qui, en général, quand elles ont des enfants et tout, c'est elles qui ont les enfants quand même, et elles n'ont pas justement la carrière pleine.
Oui, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes?
Oui, ça, c'était une vraie question. Parce que le fond de nos difficultés, c'est le problème qu'on n'a pas assez d'enfants en France. Oui, et donc, qu'on n'a pas assez de gens qui vont travailler aujourd'hui pour ceux qui sont à la retraite demain et encore moins après-demain. C'est ça la réalité. Ça veut dire que l'axe sur lequel on aurait dû mettre l'accent, c'est les mères de famille. Si on n'aide pas les Français à avoir plus d'enfants, le problème de la natalité, du manque d'enfants, c'est ce qui plombera le système des retraites. Vous avez raison, mais on aurait pu peut-être s'en apercevoir un peu plus tôt.
Et sur la natalité, vous faites quelle proposition? Qu'est-ce qui doit encourager aujourd'hui la natalité
en
France?
Ça ne concerne pas que les retraites, ça concerne aussi la démographie, les allocations globalement. Familiales et tout. C'est un de nos soucis. C'est un aussi et une réponse. On n'a pas de réponse à cette...
Éric Zemmour, il proposait 10 000 euros par foyer en zone rurale, je crois, dans la campagne présidentielle.
Pourquoi donc dans les zones rurales? Expliquez-moi, j'ai du mal à comprendre.
Il faut lui demander à lui.
Vous lui demandez, quand vous voyez, vous lui posez la question. Moi, je n'ai pas bien compris.
Un autre sujet, c'est le travail des seniors. Alors vous êtes pour la retraite à 65 ans, mais on voit que le taux de chômage ou le taux d'inoccupation des personnes au-delà de 60 ans est très élevé en France. Vous préconisez quoi pour qu'on puisse maintenir les seniors dans l'emploi?
Je sais pas, j'ai vu la proposition au Sénat, vous en parlez à l'instant, d'un CDI senior.
Comme 800 millions d'euros.
Maintenant, oui, ça me semble pas stupide, mais avec toujours le même bémol, qu'est-ce que ça va coûter?
J'ai 800 millions.
800 millions? Et oui, voilà, tu payes quoi? Tu payes comment? Je veux dire, est-ce qu'il fallait pas, à un moment donné, avoir des actes courageux? Quand vous vous attaquez pas aux régimes spéciaux, et c'est pas vrai, on s'attaque à 5 régimes spéciaux, dont au moins 2 sont bénéficiaires. Donc, et le troisième, c'est le Conseil économique et social. Là, on aurait pu carrément supprimer le Conseil économique et social. On aurait pu se poser la question de la retraite des gens qui travaillent.
Mais après, il y a aussi un coût social au travail des seniors. Là, il y a un institut, l'Adresse, qui a, via le Corps, publié une enquête en début d'année. Et quand vous faites travailler plus longuement les Français, entre 60 et 65 ans, ça a aussi un coût social pour la sécurité, pour le RSA, et au niveau des dépenses en termes d'invalidité, c'est 3 milliards d'euros. Donc en fait, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez
de l'autre. Vous le perdez de l'autre, donc... mais j'ai vu exactement, c'est pour ça, attendez, mais moi j'ai pas de réponse à toutes ces questions-là. Humblement, je vous le dis, j'ai comme vous constaté ça, comme vous je constate la frilosité de nos entreprises à garder des gens quand ils ont passé un certain âge parce qu'ils coûtent plus cher.
Mais vous préconisez une retraite à 65 ans, donc en fait, ce serait des dépenses encore complémentaires.
Oui, d'accord, mais il me semble que dans la colonne positive, c'est-à-dire que ça permet quand même d'entrer, de faire que les gens travaillent plus et donc cotisent pendant plus longtemps, par rapport aux inconvénients, si on les modifie en donnant plus de possibilités aux entreprises d'employer dans de meilleures conditions, d'où le contrat pour les personnes de plus de 60 ans, il me semble que là, on est sur une voie chaotique, compliquée, mais peut-être que c'est vers ça qu'il faut aller.
Alors, il y a un véhicule législatif particulier choisi par le gouvernement pour cette réforme des retraites. C'est un texte modificatif d'un budget de la Sécurité sociale. Donc, il y a un temps contraint, on l'a beaucoup expliqué, je le rappelle à l'instant. Après deux semaines à l'Assemblée nationale, le texte est arrivé au Sénat. Il repartira ensuite en commission mixte paritaire avant d'être voté par les deux chambres. Il est donc arrivé à la Chambre haute et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a pris la parole, s'est adressé aux sénateurs et voici ce qu'il leur a dit.
Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République.
C'est la nouvelle patronne des écologistes, hein, Mme Tondelier, qui avait dit que l'Assemblée nationale, c'est une ZAD, une zone à défendre dans le cadre de cette réforme des retraites. Évidemment, en creux, vous entendez M. Ménard, tout ce qu'il ne dit pas par opposition, l'inverse est à l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi ?
Il a besoin d'en rajouter une couche. Vraiment, vraiment, tu vois, aujourd'hui c'est déjà assez compliqué, les gens vont descendre dans la rue manifestement massivement mardi et je te fais un petit plaisir en se te faisant une petite phrase qui est reprise par tout le monde, la preuve, on l'écoute ensemble. Honnêtement, je trouve ça un peu irresponsable.
Pour vous, c'est pas au niveau ?
Il pourrait prendre de la hauteur. Il sait bien que, en parlant de ZAD, il remet une pièce dans la machine et on recommence. Je sais pas. Peut-être je me trompe. Je rêve de gens qui ont un peu de bon sens, qui ont envie de faire avancer les choses, qui n'ont pas envie qu'on reprenne forcément leurs propos sur les chaînes et nous ici. Mais qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait de bien pour ce pays. Je ne crois pas que ce soit une bonne méthode. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit une bonne méthode. Mais ils sont des deux côtés de la même du même tonneau. Enfin, avec une prime avec la France insoumise, où là, on a dépassé tout ce qui est acceptable.
Marine Le Pen, elle s'est plutôt assez bien comportée. C'est à ce moment-là que vous vous écartez un peu du mouvement. Vous le regrettez ?
C'est-à-dire ?
Elle s'est bien comportée à l'Assemblée nationale.
Ah oui, elle s'est comportée, sauf qu'elle n'a aucune proposition à faire. C'est tout, tu vois.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que, en effet, il y a une prime au Rassemblement national, mais en réalité, sur le fond et sur les propositions, il n'y a pas eu grand-chose.
D'accord, c'est exactement ça. Il y a une prime, évidemment, quand tu vois le comportement de la France insoumise et des élus du Rassemblement national, à part d'être un sectarisme absolu, tu dis qu'il y en a qui se tiennent convenablement, quand d'autres se comportent comme dans une ZAD.
C'est pour reprendre. Vous avez regardé ces deux semaines d'échange à l'Assemblée ?
Ah, mais je trouve ça affligeant. Mais je trouve que ça... En plus, si ça discréditait seulement la France insoumise, honnêtement, je m'en foutrais un petit peu. Mais je pense que les gens, ils se disent « Ah, c'est ça le Parlement ? Ah, c'est ça le Parlement ?» Vous avez vu, c'est un bourreau, assassin, menteur, enfin, je sais pas, on a eu...
L'épisode du ballon.
Ouais, l'épisode... En fait, t'as honte ? Moi, j'ai honte.
Est-ce que ça n'a pas toujours existé à l'Assemblée nationale ? Il y a toujours eu des invectives. Oui, je rappelle dans un clin d'œil, mais le dernier duel... À l'arme blanche, il est né à l'Assemblée nationale. Donc oui. Ça a toujours existé, les prises de bec, les invectives.
50 exemples de l'entre-deux-guerres où ils se traitaient de tous les noms d'oiseaux. Voilà. Sauf que vous n'étiez pas là. Il n'y avait pas de chaîne d'information continue, non. Les gens ne voyaient pas le débat comme ça. Vous l'aviez par le biais de la presse écrite et tout. Vous mettez BFM et vous avez les gens qui se traitent, qui s'alpagassent de cette façon-là, qui s'insultent de cette façon-là. Et moi, je trouve ça terrible. Pour nous tous, ça abîme, pas
du
seulement.
Vous dites quoi ? Vous dites en gros au patron de la France Insoumise, donc à Madame Panot à l'Assemblée, tenez vos troupes et tenez-vous différemment ?
Non, parce que c'est leur fonds de commerce. En fait, j'ai pas la naïveté de la rappeler à quoi. Elle s'en fout d'abord de ce que je dis, et puis c'est ce qu'ils font. Mais vous savez, ça renvoie à un débat de fond. Comment cette haine, cette violence est encore, finalement, d'une certaine façon, tolérée dans notre pays ? Parce que je pense sincèrement... Alors qu'on est revenu sur le fascisme, le nazisme, et donc toutes ces paroles racistes, antisémites sont discréditées définitivement dans notre pays, et ceux qui s'amusent à les tenir sont discrédités, autant la haine de classe que traduit ces propos-là, elle a jamais été discréditée. Personne n'appellerait son parti, un parti fasciste ou nazi, ça ne te viendrait pas à la tête. Mais il y a des partis communistes en Europe, quand on sait ce que ça a été. Et cette violence-là, elle est le produit de ça. Je pense ça va vous paraître un peu loin. Je pense qu'il n'y a pas eu de Nuremberg sur ce que ça a été l'extrême gauche et les dangers de l'extrême gauche dans ce pays.
Donc vous pensez, pardon, que tout ça, les échos de cette histoire que vous dénoncez se traduisent aujourd'hui dans l'Assemblée ?
Enfin, attendez, vous dites ça d'un ministre. Je croyais que plus personne, t'avais trois fous furieux de gauchistes, on les entend plus, qui pouvaient dire ça.
Ce que vous avez dit,
attendez, le ballon, mettre le pied sur le ballon, quand ça rappelle exactement des images du de Daesh et tout. Comment tu fais ça? Imaginez un instant que ce soit le Rassemblement National, vous voyez, ce coup-ci, je me suis pas trompé, le Rassemblement National qui ait tenu ces propos-là et qui nous ait fait l'image avec un député du Rassemblement National, le pied sur un ballon. Mais on aurait dit, vous imaginez les commentaires? Mais ça les discréditerait.
Qu'est-ce que vous dites d'Éric Mélenchon alors qu'a tout fait pour chauffer ses troupes?
Mais il est un danger pour la démocratie.
Pourquoi?
Il est d'une démagogie à toute épreuve. Il est prêt à reculer devant rien. Rien. Ce qu'on a vu là, l'huile qu'il a jetée sur le feu, les appels qu'il a fait, même quand les autres se calmaient à l'intérieur, ses députés, vous avez vu, il en a rajouté des couches et tout. C'est un danger. J'essaye de pas être exagéré. Honnêtement, il met le feu et il met en danger ce qu'on a en commun. Moi, j'ai pas les idées de tout un tas de gens. Mais je respecte les gens. À l'Assemblée, plus personne n'a respecté.
Il est dans une tactique insurrectionnelle.
Absolument. Moi, honnêtement, vous avez vu sur le ministre, je peux vous en faire 2 tonnes sur lui. Mais enfin, je le traiterai pas. J'aurais jamais. Vous diriez-vous qu'il est un assassin? Enfin, vous savez le terme, ce que ça veut dire. Encore une fois, imaginez que ce soit de l'autre côté, à la droite de la droite, qu'on ait dit la même chose. Mais ça aurait été, là, ça a été un scandale. Mais alors, ça serait 10 fois plus.
Donc, pour vous, c'est pas un bordel, c'est une stratégie, en fait.
Ah, mais je pense qu'il met le feu à ce pays. Il pense, il a perdu 2 fois, il doit rêver de se représenter, et il pense.
Il a perdu 2 fois, mais il a été aux portes du second tour. Et il a porté la voix de millions de Français aussi.
Ah oui, mais absolument. Dieu merci, on y a échappé. Enfin, vous imaginez, Monsieur Mélenchon, chef de l'État, une seconde. Enfin, vous imaginez.
Bah, si les Français le choisissent, oui, je l'imagine.
Oui, d'accord, mais je préfère qu'il l'ait pas fait, honnêtement. J'ai encore le choix de dire que je préfère qu'il le fasse pas.
En revanche, votre épouse, la députée Emmanuelle Bénard, elle a dénoncé dans l'hémicycle toute l'agitation autour d'Adrien Quatennens.
Elle a eu raison. Vous avez envie, vous donner le
donc coup. A été mis mais au parce, banc parce qu'il avait giflé sa femme.
Mais non, parce qu'on n'est pas dans une. Vous avez bien compris. Vous voyez ce que j'essaye de dire là, peut-être maladroitement. J'essaye de vous dire qu'on n'est pas dans ni Emmanuel ni moi, Emmanuel, ma femme. Donc, on n'est pas dans une logique parti. On n'en est pas dans des partis politiques. On est libre de choses. Quand j'ai vu Monsieur Quatennens, vous savez comme un lapin traqué dans les feux de les éclairages d'une voiture, les phares d'une voiture, ça m'a touché pour lui. Je le défends pas. Mais j'irai pas lui mettre le dernier coup de pied. C'est trop facile quand les gens sont à terre. Je trouve ça dégueulasse.
Vous n'irez pas lui mettre le dernier coup de pied, mais lui, il a mis le dernier coup de main. Pour pas dire coup de poing sur son
mais
épouse.
C'est vous le magistrat?
Non, mais la justice l'a condamné.
Il y a la justice. Qu'est-ce qu'elle a dit, ma femme? Elle a dit, il a été condamné. Et puis personne ici, entre nous, ne pense qu'il n'a pas à être condamné. Mais pardon, il n'a pas été inéligible. Alors, je ne savais pas que c'est ni les journalistes que vous êtes, ni les hommes politiques qui décidons des peines des gens. C'est la justice, Monsieur Quatennens. Il va payer ça, pas plus que ça. On n'en rajoute pas, honnêtement.
Vous pensez que demain, il peut se lever dans l'hémicycle, prendre la parole pour défendre les violences?
Mais si, attendez, il y a la justice qui a tranché. Attendez, on est pour la séparation. On est pour la démocratie, pour la séparation des pouvoirs. J'ai même vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire. J'ai même trouvé, M. Mélenchon, dont vous avez vu ce que je suis capable de dire là, je l'ai trouvé plutôt digne. Le fait de défendre un type qui est son ami, je ne trouve pas ça... Je trouve ça plutôt bien d'un côté. Et il le paye, parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Aucun intérêt à le faire.
Midi 30, Monsieur Ménard, je vous montre 3 photos. Derrière chacune de ces photos, il y a une question liée à l'actualité. Vous allez en choisir 2. Vous allez voir apparaître le visage de Patrick Bruel à Tlemcen, en Algérie, des trottinettes et le chiffre 26. Quelle première photo choisissez-vous?
Oh, l'Algérie, bien sûr.
Alors, Patrick Bruel est retourné donc en Algérie, à Tlemcen, là où il est né, avant de partir très jeune en raison de la guerre. Un voyage qui l'a profondément marqué, qu'il a raconté dans la presse ces derniers jours. C'est une histoire que vous partagez. Je vois déjà l'émotion sur votre visage, parce que c'est un sujet qui est important pour vous. Vous êtes né à Oran, vous êtes parti pour les mêmes raisons que lui. Vous êtes déjà retourné là-bas?
J'y suis retourné quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. Vous vous rappelez ce que payaient les journalistes là-bas. J'y retourne plus parce qu'ils refusent obstinément de me donner un visa, alors que j'ai demandé plusieurs fois aux autorités algériennes de me laisser amener mon épouse, ma fille, pour lui montrer ce que c'était l'Algérie. Et Oran, vous le dites, ils veulent pas en entendre parler. Donc, je ne peux pas retourner à Alger. Et je le regrette parce que une partie de moi, elle est là. Une partie de moi, elle est là, parce que ma vie, elle est là, parce que ma vie, elle a basculé, la vie de ma famille a basculé en 1962, et que c'est quelque chose qui me meurtrit profondément. Je ne regarde pas l'Algérie comme aucun autre pays au monde en dehors de la France. En dehors de la France. Je suis partagé par ça, chahuté par ça, profondément blessé par ce qui s'y passe. Voilà, et que je comprends qu'il y retourne. Moi, j'aimerais y retourner.
Vous continuez de demander ces visas?
Mais oui, mais si on me les donne pas, les visas,
c'est un pays indépendant. Mais là, le président algérien a l'air d'être dans une stratégie d'ouverture, de marketing ou d'ouverture. Est-ce que s'il vous invitait, vous iriez?
Mais bien sûr que j'irais. En même temps, sur l'ouverture, enfin, ça fait 15 jours que le gouvernement algérien ne donne plus aucun, laisser passer consulaire pour les gens qu'on veut foutre dehors parce qu'ils se sont mal comportés en France. L'Algérie, là, sur les autorités algériennes, elles ont juste besoin de leur rappeler un certain nombre de règles. Et à la France, si jamais ils continuent à mépriser notre gouvernement de cette même façon, en refusant de laisser revenir des gens qui n'ont rien, qui sont algériens, qui n'ont rien à faire en France, j'espère qu'on leur supprimera les visas, si j'ose dire. On l'avait fait, mais là aussi, sur l'inconséquence, vous avez vu M. Macron là-dessus? Pendant des, vous rappelez, il y a quelques mois, on nous disait, on va plus donner de visa puisqu'on n'arrive pas à avoir les laissez-passer consulaires. Okay. Après, ils ont redonné les visas sans qu'on sache ce que ça a changé. Et là, qu'est-ce que j'entends? À la veille du départ de Monsieur Macron en Afrique, qui dit, ah, il faudrait donner plus de visas. Enfin, attendez. C'est ça que je comprends pas. Vous avez compris? Moi, je suis pas anti-macroniste comme ça, primaire, pas du tout. Mais je dis quand même, tu veux pas changer d'avis tous les 15 jours, quand même.
Monsieur Ménard,
il est chef de l'État.
Il nous reste deux photos. Il y a des trottinettes et le chiffre 26. Laquelle choisissez-vous?
Écoutez, les trottinettes, je pourrais en parler parce que c'est un vrai débat. Tous les maires, on se demande, vous savez, si on doit les mettre chez soi. Le 6-26, c'est...
C'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année. Trois femmes ont été tuées par leur ancien compagnon en deux jours, jeudi. Vendredi, deux d'entre elles avaient pourtant porté plainte. Il y a même un de ces hommes qui avait été condamné à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur son ancienne compagne.
J'ai vu ça.
Le gouvernement teste un pack nouveau départ pour aider les femmes victimes de violences, avec un référent unique, une aide financière, une aide matérielle, d'hébergement, etc. Est-ce que ça va suffire?
Je sais pas. Moi, chez moi, à Béziers, ces trois dernières années, il y a eu deux femmes qui ont été tuées par leur compagnon, leur ex-compagnon, enfin, qui ont été tuées par un homme. Et... pour connaître ces deux affaires plus que celle-là, donc je parle pas dans les faits divers, il faut faire attention à ce qu'on en sait et tout. Je sais pas ce qu'il faut faire, honnêtement. Nous, on a des lieux, évidemment, pour abriter les femmes battues et tout, qu'on ne rend pas public. Vous imaginez pourquoi? Parce que le même type, il est quand même capable d'attendre à la sortie. Moi, ce qui m'a sidéré dans l'affaire à côté de Bordeaux, c'est que c'est pour ça que je fais un peu attention. A priori, de ce que j'en sais, donc je fais attention, on avait tous les éléments, il y avait deux plaintes qui ont été posées et tout, tous les éléments pour dire que ce type était jobard et qu'il allait s'en prendre à elle. Pourquoi on l'a pas fait? J'en sais rien.
Monsieur Darmanin a demandé une enquête. Hein.
Il a raison, parce que moi je veux montrer personne du doigt, parce que je n'en sais rien, mais évidemment on est en droit de se poser la question.
Monsieur Ménard, je vous montre la une, vous l'avez peut-être vu, vous, de l'Incorrect. En une de l'Incorrect, de ce magazine... il y a les jeunes représentants des LR, du Rassemblement National et de Reconquête, avec ce titre. Les jeunes coupent le cordon. Est-ce que ce n'est pas votre fantasme qui se matérialise un peu là?
Fantasme qui n'a jamais beaucoup réussi, parce que l'Union de la droite, comme échec de ma part, puisque j'étais un des premiers à le demander il y a des années et des années. Moi, je ne sais plus comment vous dire, il y a deux réponses. Il y a une première réponse. Quand les gens s'offusquent à droite, que les jeunes de droite des différents visages de la droite parlent entre eux, enfin, là encore, tu te dis, mais ils se croient où? Enfin, moi, je discute avec n'importe qui. Je veux dire, je vois pas pourquoi je pourrais pas parler avec eux. Et c'est pas un crime de lèse-majesté. Ils ont violé personne.
Non, mais ça veut dire que cette génération-là peut y arriver, là où votre génération, par exemple, a échoué?
Moi, je suis même pas sûr qu'ils y arrivent plus que ça, parce qu'ils vont se faire taper du doigt sur les doigts les uns derrière les autres. Alors je les connais les trois pour savoir que c'est le sectarisme. Vous savez, c'est pas parce que t'es jeune, t'es moins sectaire. Alors là, ça se saurait. Bien sûr que les gens parlent, mais parler de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'union de ces trois composantes de la droite qui pourrait faire qu'il y ait une relève en France? On peut être sceptique, mais qu'ils parlent entre eux, c'est la moindre des choses.
Donc ça n'arrivera jamais, l'union des droites.
Enfin, moi, j'en suis revenu, j'arrive plus à y croire. J'aimerais y croire, mais j'arrive plus.
Et alors, chez les aînés, leurs aînés, entre Ciotti et Pradier, vous auriez votre cœur balance d'un côté ou de l'autre?
Ciotti, c'est le nouveau patron des LR qui a éjecté Pradier de son poste de numéro 2 suite à cette prise de position à l'Assemblée sur la retraite.
Pradier, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme il a dit, il y en a un an, il a dit exactement le contraire. Ciotti, au moins, vous pouvez admettre qu'il a plus de suite dans les idées. Non, moi, je trouve que par exemple, au Sénat, c'est pas si mal ce qu'il propose et tout. Alors, je le dis avec une espèce d'autocritique, parce que moi, le Sénat, je l'aurais jeté, comme tout à l'heure,
Vous parlez de Retailleau de...
Non, l'ensemble du Sénat. Moi, je suis d'une génération où on pensait que le Sénat, c'est dans le cadre de l'inutilité, on pouvait s'en passer. Tu découvres d'un coup que finalement, l'endroit de la raison, du bon sens, ça pourrait être là. Vous savez, les sénateurs, quand j'étais jeune, c'était tout ce que tu n'avais pas envie d'être. Tu sais, c'est le type qui était toujours à table, le train de sénateur, la vie de sénateur.
Il y a des élections, là, en septembre, vous seriez candidat?
Non. C'est terrible. Mais je peux dire de ça. J'ai aucune envie. Je ne serais même pas candidat à la mairie. Je ne vais pas être de nouveau maire. J'aurais été maire de 12 ans, ça suffit. Ils ne savent jamais ça.
Vous allez faire quoi, du coup?
Je ne sais pas, j'ai été longtemps journaliste. D'un coup, ça l'inquiète. Il se dit, elle ne va pas revenir.
Non, tout va bien. Je ne suis pas du tout inquiet. En revanche, je suis curieux.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai 3 ans.
Non, parce que vous avez dit, monsieur Ménard, là, récemment, Zemmour n'est plus mon ami. Vous avez été très proche de lui. Vous êtes rapproché politiquement de Marine Le Pen, avec laquelle vous avez noué des alliances politiques, même si, pour être honnête, vous l'avez toujours également critiqué ouvertement lorsque vous n'étiez pas d'accord avec elle. Vous vous rapprochez d'Emmanuel Macron en un sens sur certaines idées, le défendez parfois. Vous venez historiquement plutôt de la gauche. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez arrêter la politique, aller pêcher, vous occuper de votre club de rugby?
Non,
ou...
je ne crois pas.
Bah donc.
S'occuper du club de rugby, ça pourrait être une occupation à plein temps, en effet. J'apprends. Moi, j'ai changé. Mère, ça m'a changé. Complètement changé. Je me suis aperçu qu'au fond, la seule bonne question qui se pose, c'est, sérieusement, au-delà de la rhétorique et tout, est-ce que je ferais mieux que celui que je critique? Est-ce que, concrètement, vous voyez,
tout à l'heure,
vous posez
des
questions. Je ne suis pas sûr, souvent. Souvent, je ne suis pas sûr. Vous me demandiez tout à l'heure sur la retraite, par rapport, vous mettiez en avant les éléments qui vont sur, il faut allonger l'âge de la durée du travail, puis d'autre part, ce que ça coûte et tout. Oui, vous avez raison, c'est compliqué. Et en même temps, j'aime pas dire c'est compliqué, parce que souvent, vous savez, les hommes politiques qui vous disent c'est compliqué, ça veut dire, en gros, je peux rien faire. Le problème, c'est comment on est sur cette ligne de crête.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Ménard? Vous voulez rester dans l'action? Vous voulez, comme d'autres le font, l'ont fait, poser des constats, profiter de votre expérience pour, dans les médias, par exemple, dire ça fonctionne, ça fonctionne.
Je veux changer ce pays. Moi, le matin.
Il n'y a pas mille moyens de le faire.
Il faut faire de la politique.
Donc vous allez faire quoi alors?
De la politique, sous quelle forme? Je ne sais pas. Comment?
Il n'y a pas mille options. Vous ne voulez plus être maire, vous ne voulez pas être sénateur, vous pouvez être député ou créer un parti, être candidat à l'élection présidentielle.
Tout est ouvert.
Moi, je pense. Vous pouvez créer un parti?
Non. Pas, je pense pas. Je pense que les partis, c'est une mauvaise. On crève des partis. On crève de la logique partisane. Pour ça que je suis contre la proportionnelle, parce que c'est une prime de plus aux partis. Il faut pas ça. Moi, je pense que les maires. Je vous mets tout de suite. Je plaide pas pour moi. C'est pas un plaidoyer pro domo. Mais je pense que les maires, ils ont une approche tellement terre à terre des choses qu'ils peuvent nous apprendre plein de choses. Quand je discute, je croise des fois des maires socialistes et je m'aperçois que je suis plus en état de discuter avec eux et on a plus de bases communes qu'avec des gens où idéologiquement je suis plus proche. Je sais pas, Monsieur Castex, pour prendre l'ancien chef de l'État, l'ancien chef de gouvernement, le Premier ministre, quand j'ai discuté avec lui longuement, je me suis aperçu qu'il a été maire longtemps. Finalement, il y avait une base de discussion commune malgré les désaccords. Quand je discute avec le maire de Cannes, qui est le président de l'Association des maires de France, Monsieur Lisnard, je m'aperçois que je peux partager plein de choses avec eux, même si j'ai des désaccords.
Comment ça peut se traduire?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je savais, je ne serais pas à hésiter.
Mais ça veut dire, pour dire les choses concrètement, ça veut dire que si vous ne voulez plus vous présenter au suffrage locale, en tout cas en tant que maire, vous n'excluez pas du tout de vous présenter à nouveau à un suffrage pour faire bouger les choses.
Je me dis, est-ce que l'expérience qu'on a comme maire et que j'ai comme maire, elle peut être utile ailleurs que dans nos villes? Est-ce qu'elle peut inspirer une politique autre, une politique nationale? Ou est-ce que c'est pas vrai? Vous avez compris, je me pose la question, je sais pas. Ou ce qu'on me répond la plupart du temps, toi, t'es maire de ploug d'une ville de province, tu vas pas commencer à nous casser les pieds pour pas être plus grossier avec des prétentions autres. Je ne sais pas.
Vous citez Jean Castex qui vient d'une petite ville de province et qui était Premier ministre.
Mais oui, je me dis, est-ce qu'on n'a pas à tirer une expérience de ça? Les 35 000 maires qu'il y a en France, il y a 35 000 communes. Est-ce qu'au lieu de nous dire, vous savez, longtemps on nous a dit, il y en a trop, il faudrait faire comme en Allemagne, regrouper tout ça et tout. Est-ce qu'au contraire, c'est pas une espèce de richesse de ce pays tel qu'on devrait l'utiliser? Est-ce qu'on devrait, par exemple, est-ce qu'il faudrait pas que les gens, avant d'être députés, vous parliez d'être députés, les sénateurs, ils le sont en général, mais être députés, est-ce qu'il faudrait pas dire aux députés, vous ne pouvez être candidat que si vous avez eu un mandat local? C'est-à-dire qu'en gros,
oui, tu t'écoles... Les règles, il faut être président de la République.
Comment?
Pour changer les règles.
Mais peut-être qu'il faudrait qu'un maire demain soit chef de l'État.
Donc vous pourriez être candidat à l'élection présidentielle.
Mais non, attendez, mais non, je ramène pas tout à moi. C'est terrible.
Non, mais c'est un peu ce que vous dites quand même. On pense à 2027, qu'on le veuille ou pas.
Madame, vous vous trompez.
Vous soutiendriez la candidature de Jean Castex.
Je peux vous dire, vous vous trompez.
Oui.
Je dis juste. Peut-être qu'on pourrait aller chercher de ce côté-là une façon différente de faire la politique. Et c'est pas forcément un plaidoyer pro-domo. Honnêtement, j'ai 70 ans. Je peux me dire que j'en aurai 73 quand j'aurai quitté la mairie. Je pourrais encore faire d'autres choses.
Donc la seule chose que vous écartez, c'est la retraite pour vous.
Bah, enfin, attendez. C'est quand même fou furieux. Vous rêvez de la retraite, vous?
Encore.
Il y a une très belle une de Causeur. Vous voyez, je fais de la pub pour sûrement le meilleur mensuel en France.
C'est pas la vie de tout le monde, ça.
Comment?
C'est pas la vie de tout le monde.
C'est le mien. J'ai le droit de donner mon avis. Vous pouvez ne pas aimer Causeur, mais moi j'aime beaucoup Causeur.
Non, je parle pas de mon avis.
Et Elisabeth Lévy. Il y avait le rêve de tous les Français, la retraite. Non, moi j'ai pas. C'est pas mon rêve.
On a parlé un peu de politique politicienne tout à l'heure. Vous disiez aussi qu'il fallait peut-être un peu changer le profil des politiques. Il y en a un qui s'est essayé à la politique, c'est Éric Zemmour, lors de la dernière présidentielle. Gilbert Collard, qui a rompu avec Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour à l'occasion de cette présidentielle, a dit cette semaine qu'il avait tout raté, qu'il était un bon écrivain, mais qu'il devait désormais quitter la politique. Est-ce que vous partagez le même constat que Gilbert Collard?
Il parlait de qui?
D'Éric Zemmour.
Gilbert Collard, que j'ai encore vu dans une manifestation avec les saloperies qu'il a dit sur moi, je vais essayer d'être gentil sur lui.
Vous n'êtes pas obligé?
Non, je ne veux pas en rajouter, je m'en fous un peu en réalité. Il a raté quelque chose, Éric Zemmour, il a raté quelque chose. Il y a une dureté dans les propos d'Éric qui est de mauvais aloi, qui est inaudible.
Vous lui conseillez de quitter la vie politique?
Je ne sais pas, il fait ce qu'il veut. Moi, je lui ai dit, on était très amis avec Éric. Je lui ai dit, les gens, ils ont besoin qu'on soit gentil avec eux, qu'on soit attentif. Dans ma ville, les gens qui viennent me voir, ils n'ont pas envie que j'envoie balader personne. Je ne m'en prends pas à quelqu'un parce qu'il a un prénom arabo-musulman. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Il faut être attentif aux gens. Il ne l'est pas assez. Mais peut-être parce qu'il ne connaît pas ces gens-là, les gens, je prends un joli mot parce que j'aime, vous savez, les petites gens, les gens qui sont pas du côté du manche, les gens qui sont dans difficulté, les gens qui ont des difficultés qu'aucun de nous quatre n'a jamais eues.
Justement, monsieur Ménard, sur ce sujet, tout de même, un mot sur l'inflation, parce que le galopante, c'est même plus le terme, je sais plus quel terme il faut utiliser, elle est inédite depuis de nombreuses années, sur les produits alimentaires particulièrement, 14%. Il y a une forme de compétition là qui est lancée manifestement des distributeurs. Aujourd'hui d'ailleurs dans la presse, ils lancent tous des grandes campagnes. Ça. Vous avez vu, évidemment, on ne peut pas passer à travers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est le rôle des distributeurs de faire ça?
Bah écoutez, si ça peut économiser sur un certain nombre de produits, c'est bien pour les gens. Tout à l'heure, je vous faisais allusion à la difficulté qu'ont les gens de payer aujourd'hui leur loyer. Moi, je le vois. Vous savez, dans les logements HLM, il y en a plus entre 6 500 à peu près chez moi dans ma ville. Il y en a un certain nombre qui sont, vous savez, où le chauffage, c'est le chauffage individuel. C'est-à-dire vous payez votre consommation. Et puis, il y a de vieux logements HLM, vous savez, où c'est collectif. La note, si on n'avait rien fait, c'est-à-dire on a pris des décisions, passer de 35 euros par mois à 300 euros par mois. Attendez, quand vous habitez dans des logements HLM, pardon, ça veut dire que vous n'avez pas trop d'argent. Comment tu fais face à ça? Quoi. Ça, c'est une vraie question.
Est-ce que les réflexions du gouvernement autour d'un panier de produits à moindre coût, de première nécessité, etc., qui met du temps d'ailleurs à avancer, ouais. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Je sais pas, j'ai entendu des avis différents, certains en disant ça serait une bonne idée, d'autres qui disent mais on va pas comparer des produits qui dans les différentes marques sont pas les mêmes. En tout cas, ça aura fait une chose. Alors attendez, ça aura fait une chose quoi ? Un, qu'il y aura sur un certain nombre de produits des baisses et personne ne peut.
Pas des baisses, mais en fait, ils seront figés.
Oui, en fait, c'est mieux que les 7, 8, 10% d'augmentation en ce moment. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est suffisant ? Évidemment pas. Mais c'est la même question que je vous posais tout à l'heure.
Alors attendez, parce que là-dessus, il y a des initiatives locales, Jérémy.
Oui, on a vu des mairies, par exemple, qui ont décidé de faire des achats groupés de fuel, de granulés pour le bois. Peut-être aussi pour l'alimentaire à Béziers. Comment vous traitez le problème de l'inflation très concrètement pour les gens qui viennent frapper à la porte de la mairie, qui disent « moi, je m'en sors plus ».
On n'a jamais autant donné le CCAS, les conseils communaux, les centres communaux d'aide sociale, le nôtre, il a jamais autant donné d'aide exceptionnelle. On a déjà mis en place, par exemple, à Béziers, vous pouvez, sur les assurances, il y a une assurance communale qui permet de payer moins cher. Sur un certain nombre sur l'essence et tout, vous avez aussi, on a des accords, je vais pas vous citer les marques, il n'y a pas lieu de le faire ici, avec des gens pour qu'on paye moins cher. Moi, je suis à la tête d'une ville où il y a de vraies
sur l'alimentaire,
difficultés.
Est-ce que vous travaillez à des...
On donne des aides. Mmh. On a multiplié les bons pour l'eau. Pour l'eau, parce qu'il faut payer l'eau. Peut-être qu'il faut faire la même chose avec l'électricité. Le problème, c'est que les moyens des villes, ils sont limités. Vous dire que j'ai réglé les problèmes, ce serait un mensonge. J'ai honte, je ne vais pas vous le dire. Vous savez, on part au plus pressé. Au fond, on est tous là, les maires, au paré, au plus pressé.
Alors justement.
Et quand il y a vraiment un problème avec une famille, que connaissent de la politique les gens? Ils connaissent le chef de l'État et leur maire. Moi, les gens, quand je fais la queue pour acheter mon pain, les gens viennent me voir. Et j'essaye de parer au plus pressé, de trouver des aides d'urgence. Mais attendez, je sais très bien que ça règle pas tous les problèmes. Mais est-ce que quelqu'un a la clé pour régler tous ces problèmes? Je ne sais pas.
Monsieur Ménard, justement, dans les prérogatives du maire, il y a la gestion des écoles maternelles, des écoles primaires. Oui. Pour la première fois, un enfant harceleur a été écarté d'une école. Décision qui est tombée cette semaine. Évidemment, la famille de l'enfant harcelé s'en réjouit. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Est-ce que c'est ça qu'il faut continuer à faire?
C'est compliqué. À la fois, spontanément, qu'est-ce que vous dites, vous? Et il menace d'autres enfants, il part de l'école. Et de toute façon, enfin, c'est reculer pour lui sauter, parce qu'il va y retourner dans une école. C'est oui, juste c'est ça. C'est pour ça. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas de réponse en un mot. Parce que, bien entendu, naturellement.
Ça, pour le coup, c'est très concret. Et ça, vous y êtes confronté en tant que
parent. Et avec l'hésitation qui est la mienne. Parce que, de toute façon, les enfants, ils ont le droit d'être dans une école. C'est même une obligation qu'on les scolarise. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu déplaces le problème. Mais peut-être qu'il faut déplacer le problème. En tout cas, nous, quand moi j'ai l'occasion, on le déplace le problème. C'est-à-dire, on les fait sortir d'une école pour aller ailleurs, mais vous ne réglez
vous
pas le problème.
Vous avez eu des cas précis à Béziers?
Bien sûr, attendez, des harcèlements entre enfants, bien sûr, monsieur.
Et vous avez fait changer l'enfant
de l'école? On a fait sortir des enfants, oui. Un enfant, en tout cas, j'ai en tête et tout, bien sûr. Mais on sait bien que ça règle pas le problème. Ça règle le problème pour la famille qui comprendrait pas que le gosse qui harcèle le leur reste là. Mais ça règle pas le problème. Honnêtement, ça le règle pas.
Alors justement, en tout dernier mot, on apprend dans le JDD ce matin qu'un petit problème informatique au ministère de l'Éducation nationale a mis en ligne un document de travail qui prévoirait de rendre obligatoire le service national universel à tous les enfants de seconde. C'est l'héritage du service militaire. Hein. Ouais. Bon, là, ce serait 12 jours pour tout le monde, levé au drapeau, etc., tout le monde en uniforme. Le gouvernement y réfléchirait. Ça vous semble être une bonne idée, ça?
Écoutez, moi, j'ai le souvenir de l'armée, parce que je suis d'une génération, contrairement à vous, qui a fait l'armée. Et c'est, au fond, c'est, alors ça a une lapalissade que de dire ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'ai rencontré là des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Je parle des garçons, pardon, madame, il n'y avait que les garçons à l'époque qui le faisaient. Vous voyez, des gens que j'aurais jamais rencontrés, parce que c'est pas vrai que vous rencontrez tout le monde. Ce n'est pas vrai. Vous êtes dans des milieux, moi j'avais fait la fac, donc il y a tout un... Et je trouve que ça te permettait peut-être de toucher du doigt que t'es pas le centre du monde.
Merci beaucoup,
si on oubliait
Robert Ménard.
Qu'on est pas le centre du monde, ce serait bien.
Merci d'avoir été avec nous ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup, Marie-Christine Jérémy. Je vous retrouve à 18h pour BFM TVSD. Notez qu'à 19h, je recevrai Michel-Édouard Leclerc. Justement, avec lui, le point sur cette inflation et sur les mesures mises en place pour tenter d'y remédier. Voici affaire suivante, Philippe Godin, Dominique Rizet. À tout à l'heure.